Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Merci de nous écouter si vous nous écoutez pour la première fois, même la deuxième et même la troisième. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec le rappeur Abdelmalik, deux actualités avec son livre Méchante Blessure, toujours en librairie, et son spectacle Jeune Noir à l'épée en tournée dans toute la France. Et évidemment, Hélène Manarino nous dressera son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables du cinéma avec une rencontre exclusive, celle du réalisateur du film Brooklyn Affair, Edward Norton, et de la musique avec une légende, Prince, et la sortie d'inédit. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le journal de la culture, journal qui débute par le festival musical qui dévoile sa programmation.
Et oui, festival mythique sur les bords du lac du Bourget à Aix-les-Bains qui se déroulera donc du 11 au 14 juillet prochain. Le festival a annoncé les quatre premiers noms hier aux alentours de 18h et nous les découvrons en musique.
In the death car, we're alive.
Alors, est-ce que vous avez deviné? Philippe,
Pop,
vous voulez faire un blind test?
Il m'en manque un. Iggy Pop, Angèle, Lenny Kravitz. Il m'en manque un.
Bah quand même, Céline.
Super, Céline.
Voilà, c'est M.
Voilà. Oui,
alors, ces quatre artistes, on les récapitule. Angèle, Lenny Kravitz, M et Iggy Pop sont attendus dans le plus grand événement pop-rock de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La billetterie est ouverte depuis 5 minutes maintenant. Elle a commencé à 10h. Pour le reste de la programmation, rendez-vous le 10 décembre. Ceux qui ont acheté leur billet entre le 28 et le 30 novembre ont vécu l'expérience Musilac les yeux fermés, qui consiste à acheter donc des billets sans connaître la programmation. 5000 passes étaient mises en vente. Je pense que les plus joueurs n'ont donc pas de regrets, évidemment. Et puis, Philippe, un mot quand même sur la programmation des Francofolies 2020 qui se passera du 10 au 14 juillet prochain pour la 35e édition. Les premiers noms ont aussi été dévoilés. Alain Souchon, Mika, Jean-Louis Aubert, Dadju, Matt Pokora, Marc Lavoine, Catherine Ringer, entre autres.
En général, quand on dit ça, on dit qu'ils sont venus aux Francofolies. Là, ils sont tous la même année. C'est quand même assez incroyable comme prog. La chanteuse Oshi s'attaque à la Manif pour tous dans son nouveau titre.
Ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous te sépires ta mère à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.
L'artiste à qui l'on doit entre autres Ta marinière que vous entendez se livre plus que jamais sur ses réseaux sociaux. Elle a dévoilé une nouvelle chanson qui s'intitule Amour censure, une chanson qui est née après le rassemblement de la Manif pour tous le 6 octobre dernier. Oshi raconte son agression homophobe qu'elle a subie il y a 6 ans. Elle défend l'amour sans jugement ni censure et elle entend se joindre au combat.
Est-ce qu'on va un jour en finir? C'est pas en pur, pour pas que je pense à en finir. Beaucoup m'ont donné de l'allure, pour le meilleur et pour le pire. Je prendrai sa main un jour, c'est sûr.
Voilà, elle appelle donc à la fin des discriminations. Oshi a annoncé également l'arrivée de son deuxième album en 2020.
Et puis on continue avec le lancement de la Nuit au Panthéon.
L'événement commence demain pour une 4e édition. Il se terminera le 29 janvier 2020. Le concept, vous avez donc une lampe torche et un quiz pour visiter ce lieu emblématique de la nef à la crypte. Vous serez donc plongé dans l'obscurité. Le Panthéon, ses décors, le pendule de Foucault, donc sous un autre angle. La musique sera à l'honneur aussi cette année parce que vous pourrez choisir entre Berlioz, Arcade Fire, Jacques Brel, entre autres, pour vous accompagner pendant cette incroyable expérience. Les départs sont prévus à 19h15 et à 20h. Ne soyez pas en retard parce qu'après, vous ne pouvez plus rentrer. Voilà, je vous le précise quand même. Et il faut compter 1h30 de visite.
L'exposition Léonard de Vinci au Louvre, évidemment, est victime de son succès.
Elle se termine le 24 février prochain et il n'y a plus aucune place à vendre.
C'est pas vrai.
Et oui, tout est complet sur le site malgré les 32 nocturnes ajoutées sans aucune médiatisation quand même. De nouveaux créneaux sont envisagés, ils seront annoncés prochainement. Je rappelle, exposition hors norme de 160 œuvres, pardon, réservation obligatoire. Et souvenez-vous, 220 000 tickets avaient déjà été vendus avant même le jour de l'ouverture. C'est le 24 octobre dernier.
Et puis tout à fait autre chose, on termine ce journal par des nouvelles de Gims.
Gims qui fête un anniversaire. C'est 10 ans de carrière. Déjà, entre-temps, il est passé de Maître Gims à Gims. Alors pour célébrer tout ça, il y a son décennie tour, une nouvelle tournée donc. Alors il avait annoncé une pause. Je vous en avais parlé, mais vous voyez, finalement... Mais il ne fait pas de pause.
Ouais.
Il sortira aussi vendredi un triple album célébrant toute sa carrière avec 4 titres inédits.
Et Gims qu'on recevra dans notre émission la semaine prochaine.
Exactement, on fêtera cet anniversaire donc avec lui. Et une chanson s'intitule « Le prix à payer ». Le clip cumule déjà plus d'un million de vues en quelques jours. Et on l'écoute tout de suite sur Europe 1.
A tout à l'heure Hélène, merci pour ce journal.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est ravis d'accueillir Abdelmalik.
Bonjour Abdelmalik.
Bonjour.
Rappeur, slammer, auteur français d'origine congolaise, totalement à part dans le paysage du rap français. Premier album, c'était Gibraltar, 350 000 exemplaires vendus, et c'est pas fini puisque ça continue à se vendre. Victoire de la musique du meilleur artiste masculin, c'était en 2008. Vous avez également publié un livre qui avait beaucoup fait parler de lui, Kala bénisse la France, qui est devenu un film en 2015. Et là, votre actualité, vous partez en tournée avec un spectacle, le titre Le Jeune Noir à l'épée, mais Le Jeune Noir à l'épée, c'est d'abord le titre de votre dernier album, mais c'est d'abord le titre d'un tableau de Puvis de Chavannes qui se trouve au musée d'Orsay. Il date de 1850 et vous y êtes presque reconnu. Racontez l'histoire du tableau, de vous-même, du spectacle.
En fait, c'était dans le cadre de l'exposition qui a eu lieu la saison dernière au musée d'Orsay, qui s'appelait Le Modèle Noir de Géricault à Matisse. Pendant que l'exposition était en train de se faire, on m'a présenté un peu les œuvres qu'il y avait là. Et puis, je suis tombé sur ce tableau de Pierre Puvis de Chavannes qui date de 1848.
Ah mince, moi j'ai dit 50.
Non, vous avez raison, 50. 1848, c'est la date de la deuxième abolition de l'esclavage et il a été peint 2 ans après, donc en 50. Donc
d'accord.
Vous avez raison. Et quand j'ai vu ce tableau, en fait, il m'a bouleversé dans le sens... Il est un peu bizarre, ce tableau. C'est un jeune homme qui a la tête d'un enfant et le corps d'un jeune homme. Il tient une épée comme ça sur son épaule. Il est assis sur un tissu bleu et c'est comme bleu sa peau noire et il a une sorte de bonnet phrygien rouge, bleu noir rouge comme un contrepoint au bleu blanc rouge. Derrière, on sent que ça brûle un peu et lui, il a cette sérénité là. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que il est noir, mais il aurait pu avoir n'importe quelle couleur. Et cette sérénité là, le fait de tenir l'épée, symbole d'homme libre, quelque part. Je me suis vu là-dedans. Je me suis dit que malgré le chaos, d'une certaine manière, on devait garder cette sérénité, continuer à se battre avec sérénité. Et se battre, c'est aussi se battre à se pacifier, à pacifier son rapport à l'autre. Et j'ai eu envie de raconter un long poème autour de ça. Et j'ai fait cet album, Le Jeune Noir à l'épée, qui est à la fois un album et également un beau livre.
Un livre chez Flammarion.
Ouais. Et présence, c'est Flammarion, Présence africaine et Musée d'Orsay. C'est important de dire ces trois noms parce qu'ils ont coédité et c'est trois grandes institutions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du lien. Et le lieu de l'institution, de mon point de vue, c'est l'endroit de démocratique par excellence. Et donc, mon idée, c'était ça. Et Présence africaine, on connaît Présence africaine, Alioune Diop, les premiers livres de Césaire, Senghor, Cheikh Anta Diop, enfin voilà, ces grandes figures.
Vous le dites, c'est un poème. Ouais. Moi, j'ai pas tout compris. Ça m'a rappelé mes cours de troisième ou de seconde où il faut une explication de texte avec le prof. Dans le titre, Le Jeune Noir à l'épée, il y a certaines phrases, certaines constructions qui sont pas évidentes à comprendre. Ah. Par exemple, celle-ci.
À s'user l'âme torréfiée sous l'effet couplé des addictions et des renoncements. Ignoré, on constate juste l'avilissement et ça, c'est dans le meilleur des cas, garçon, dire que nous étions censés la faire, la révolution. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. De vieilles villes frigides qui se la jouent, banlieue lascive se dénude à loisir sur les plages naturistes du oui-dire. Les seins nus, qu'en pense-t-il les injustices que subissent les plus fragiles? Je sais pas, je suis... Le jeune noir à l'épée, à l'époque je me dis.
Alors je dois dire, j'ai trouvé ça très très beau, très poétique, très onirique, mais je me suis dit, les seins nus compensent-ils les injustices que subissent les plus fragiles? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Pourtant, enfin, j'ai le sentiment que c'est assez simple. L'idée, c'est de dire que sa liberté, on ne la gagne pas nécessairement dans ce qui est devenu le rap aujourd'hui. on la gagne dans un combat. Quand je dis ce qu'est devenu le rap aujourd'hui, c'est-à-dire s'arrêter finalement à la voir, aux apparences, et ne pas penser finalement à ce qui est essentiel, à savoir l'être. Et l'être, c'est aussi cette capacité de dire qu'on doit, lutter pour l'humanité en général, en tout cas tous les êtres humains, et lutter pour tous les êtres humains, c'est-à-dire penser aux plus fragiles d'abord. Donc voilà, c'est un peu c'est ce que je dis en gros.
Oui, mais quel rapport avec les plages naturistes ?
Non, mais en fait, c'était pour parler de l'extérieur, de l'apparence, en fait, de ce qu'on voit en premier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour vendre un yaourt, on va nous mettre... on va nous mettre une femme dévêtue pour ce genre de choses.
C'est terminé depuis 2 ans ou 3 ans et c'est tant mieux.
Il faut continuer à se battre pour que ça n'existe plus réellement. Mais ce que je veux dire par là, en fait, puisque évidemment on a affaire à de la poésie, l'idée c'est de dire que ce paradoxe-là, où on vit dans un monde où on est par rapport à ce qu'on a ou ce qu'on représente, et pas par rapport à ce qu'on est réellement. Et donc c'est dit de manière poétique.
Je vous avais dit qu'Abdelmalik était totalement à part dans le paysage du rap français et on s'en réjouit, vous restez avec nous.
Abdelmalik est notre invité, dans un instant on va vous découvrir autrement Abdelmalik grâce au portrait inattendu d'Hélène Manarino sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Abdelmalik, je vous présente Hélène Manarino, qui a failli ne pas venir aujourd'hui. Je suis ravie qu'elle soit ici.
Oui.
Hélène, c'est à vous.
Bonjour.
Bonjour Abdelmalik. Je suis là pour dévoiler quelques petites choses sur vous, des choses que l'on connaît peu, mais qui vous définissent surtout. Alors Abdelmalik, vous êtes un grand, grand bosseur. Vous êtes très casanier. D'ailleurs, c'est un mot qui peut vous faire rire. Et si vous sortez, c'est uniquement pour le travail. Vous bossez tellement que parfois... vous oubliez même de manger, notamment en tournée, et cela peut rendre assez dingue votre équipe quand même. Vous êtes capable de rester dans votre chambre d'hôtel quand vous produisez en Guadeloupe ou en Martinique pour écrire, et ça depuis tout petit. Mais ce travail, c'est aussi votre spiritualité, Abdelmalik. Vous n'aimez pas le changement. Certains vous surnomment le papy. Vous n'avez pas changé de banque depuis 30 ans, par exemple.
Comment vous savez ça ? C'est moi qui pose la question. Mais c'est quoi cette histoire ?
Waouh !
Mais
c'est étonnant que vous sachiez tout
non,
ça.
Non, mais c'est Bercy. Non, mais...
vous avez les mêmes habitudes. Bref, il ne faut pas vous bousculer. Et puis ce côté papy, mais papy mignon quand même.
Papy gentil
va aussi avec votre côté nostalgique. Vous l'êtes beaucoup, notamment nostalgique des années 80. Vous ressentez une émotion particulière quand vous entendez ça.
Mais c'est incroyable que vous sachiez tout ça.
Ah, la tête que vous faites, ça
Capitaine
vous touche.
Flamme.
Non, ça m'émeut.
Ça oui. M'émeut. C'est vrai.
Ouais, vraiment profondément.
Oui, ça vous émeut, oui.
Ça vous ramène en enfance.
Ouais, ça me ramène en enfance, un contexte, une époque. Enfin, c'est incroyable. Ma cité, Onéoff, à Strasbourg, enfin, plein de choses. Mes parents, enfin, ouais. C'est marrant.
Il y a aussi Goldorak.
Alors, vous auriez pu mettre ça aussi.
Ce n'est pas le seul souvenir de votre enfance, non, une enfance où vous rêviez d'atteindre, j'espère que je le dis bien, pardon, Leynès, un endroit de votre quartier.
Non, mais là, c'est pas normal. Là, il y a un problème.
Attendez, racontez d'abord ce que c'est pour les gens qui connaissent
pas. Je vous laisse le raconter. Moi,
qu'est-ce que c'est ?
Ça va être mieux dans.
Waouh ! Ben, en fait, Leynès, c'était un endroit dans la cité. C'était l'endroit où, on va dire, toutes les jeunes filles et les jeunes garçons branchés, c'était l'endroit où on allait, on se rencontrait, etc. Mais vraiment, fallait être le gars ou la fille branchée, quoi. Et donc moi, je voulais aller là-bas, forcément, comme tout le monde. Et puis j'ai réussi à y aller finalement. On m'a accepté, j'ai vécu des années incroyables avec des amis qui sont restés des gens très proches et tout. Donc c'est incroyable que vous sachiez. Comment vous savez ça ?
C'est son métier.
C'est le mystère.
Ouais,
alors, vous étiez un petit garçon romantique aussi. Il y a une femme dont vous étiez très amoureux. Vous lui écriviez des lettres incroyables. Beaucoup de lettres. Vous attendiez une réponse. Vous étiez devant votre boîte aux lettres tous les jours, Abdelmalik. Et cette femme, on va révéler, attention. Hein. Cette femme, c'est elle.
Non, c'est pas vrai.
C'est incroyable.
Il faut dire qui c'est.
Elsa.
Ah ben c'est Elsa,
la chanteuse Elsa,
ouais. Que je n'ai jamais rencontrée.
Non,
jamais.
Vous aimeriez ou au contraire, vous voulez garder ça comme un fantasme éthéré d'enfance ?
Je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais pas. Ça, mais vous voyez, vous me bousculez là. C'est incroyable ça.
Vous êtes perturbé.
Ah ouais, je suis perturbé. Ouais. Alors, c'est incroyable.
Ces personnages qui vous rendent nostalgique, nous en sommes à deux personnages, Capitaine Flamme, Elsa, et comme on dit, jamais 203. Mais là, on va parler de passion. Uh-huh. On va parler de mythe absolu depuis que vous êtes tout petit, que vous partagez avec vos frères et votre maman. C'est monsieur Pierre Richard. Pierre Richard, dont vous êtes absolument fan, Abdelmalik, mais vraiment. Et il peut aussi vous émouvoir, Pierre Richard.
Ah ouais, carrément. Mais ce qui est incroyable, en fait, vous savez que personne n'a jamais dit ça sur moi. C'est la première fois qu'on va aussi loin. Comment? Non, parce que là, comment vous savez tout? C'est incroyable, ça.
Vous savez quoi? Une fois sur deux, les gens posent cette question et elle ne répond jamais. Mais Pierre Richard, pourquoi ça vous émeut à ce point?
D'abord, ça me rappelle des soirées familiales où on regardait ça enfant et tout. Puis il y a une histoire. Un jour, il y a mon frère aîné qui vient et qui nous dit « Il y a Pierre Richard dans la cité. » Alors ma mère, elle dit « Pierre Richard dans la cité, franchement. » Et finalement, il nous convainc et il nous amène, ma mère et moi, on va voir ce... En fait, c'était un type qui venait d'aménager, qui ressemblait vaguement à Pierre Richard.
L'anecdote, c'est génial.
Mais il y a aussi une autre anecdote après, parce que j'ai rencontré
Pierre
Richard.
Au salon du livre.
Et là, c'était quelque chose.
C'était quelque chose parce que vous l'avez rencontré et puis vous aviez un déjeuner en commun et il a crié votre nom.
Alors là, c'était incroyable.
Et chose à laquelle vous avez répondu, il y a Pierre Richard qui m'appelle là. Ouais. Il y a Pierre Richard qui m'appelle.
Ouais. C'était bouleversant. Et on salue Pierre Richard qui est un immense acteur.
Alors justement, quand il s'agit de vous appeler Abdelmalik, vos proches ont une méthode pour éviter que tout le monde se retourne, pour garder un petit peu de discrétion.
Non.
Alors je suis pas sympa parce que je vais révéler
ouais,
le
ça,
nom
vous
ce matin.
Vous devez pas dire ça.
Il vous appelle, alors je vais pas savoir le dire, Jizz Up. Alors, chers auditeurs, si vous entendez Jizz Up, c'est en réalité Abdelmalik qui n'est pas très loin. C'est une petite astuce.
Non, mais tu lui as grillé son surnom.
Là, vous l'avez grillé. C'est vrai.
C'est pas du tout sympa ce que je viens de faire.
Non, pas du tout. C'est pas grave. Mais continuez.
Mais vous allez trouver un autre surnom.
Enfin, ça fait quand même près de 30 ans que j'ai ce surnom. Donc, c'est un code.
L'élégance d'Hélène Manarino.
Mais c'est de la bienveillance.
Ouais, non, mais je vois bien que c'est de la bienveillance. Je vous en veux pas.
Pour terminer, Abdelmalik, on vous disait bosseur, vous êtes bosseur depuis toujours, vous ne vous arrêtez jamais. Et vous avez cette particularité de voir votre vie sur du long terme. Vous voyez les choses, celles qui vont se passer. Alors je vais vous laisser le mot de la fin, parce que apparemment, vous savez où vous en serez dans 10 ans.
Ben, là encore, vous rentrez dans des choses un peu personnelles, intimes, profondes. Mais oui, en fait, j'ai un truc un peu particulier, c'est que je me projette, mais pas juste moi, c'est-à-dire je projette les événements, en fait. Et généralement, je me trompe rarement. Et ça fonctionne en tranche de 10 ans.
Et alors, dans 10 ans, on a envie de savoir maintenant.
Où je serai dans 10 ans?
Ouais.
Alors là, quand même, on va garder un peu de mystère. Quand même.
Bah
là, on a tout révélé. On a tout révélé. Dans 10 ans, je serai dans un endroit particulier. Mais en tout cas, ça sera un endroit, je pense... ou avec d'autres, on fera avancer, on continuera à faire avancer positivement la France. Voilà.
Vous savez où vous serez dans 3 minutes?
Dans 3 minutes, je serai avec vous.
Oui. Quel bel enchaînement.
Abdelmalik est notre invité et avec lui, dans quelques instants, on va découvrir nos indispensables du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Nos indispensables du jour, c'est dans un instant. On démarrera, Philippe, avec Angèle Châtelier. On parlera musique, tout comme avec notre invité Abdelmalik. Son dernier album, Le Jeune Noir à l'épée, est également un spectacle qui se jouera en tournée dans toute la France et au Théâtre de la Ville à Paris, espace Cardin, du 17 au 19 janvier.
Et je donnerai également les villes de la tournée dans Le Jeune Noir à l'épée, l'album. Il y a le titre La Vida Negra. Vous citez explicitement Renaud, mais c'est pas ce qu'on croit.
Ouais, c'est un jeu de mots en fait.
Allez-y.
C'est un jeu de mots avec c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et moi je dis que son embarcation est ou non un moteur Renault. Et en fait ça parle des migrants. Et voilà, donc c'est un jeu de mots un peu tragique, mais c'est un jeu de mots également.
Et c'est votre manière de faire passer les choses dans le titre Strasbourg. Là par contre, il n'y a pas de jeu de mots humoristique. Vous évoquez, je vous cite, l'imbécile qui assassine rue des Orfèvres. On pense évidemment à l'attentat du marché de Noël il y a un an rue des Orfèvres. Shérif Chekat qui a fait 5 morts, 11 blessés. Vous venez de Strasbourg,
ouais.
Et vous êtes musulman. Comment avez-vous ressenti cet événement?
Ah ben, ça a été bouleversant pour moi, c'est-à-dire c'était horrible, horrible au plus haut point pour plein de raisons. Parce que... Strasbourg, c'est une grande ville qui a une grande tradition d'œcuménisme. et de travailler, mais concrètement, au vivre ensemble, au dialogue interreligieux, vraiment, vraiment. Et donc, voir ça, enfin, vivre ça, enfin, ça a été horrible. Et puis, ce jeune homme, je connaissais aussi sa famille. Donc, il y a tout un truc où c'était incroyable. On se dit comment le mal vient jusqu'à nous de cette manière. Enfin, c'était horrible.
Vous avez parlé à des gens de sa famille ensuite ?
Après, non, pas du tout. Ça faisait... Non, mais c'était... Enfin, c'était horrible. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est horrible, en fait. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de mots pour parler de ce genre de choses.
Les grandes douleurs sont muettes. On parlait de musique. Ouais. Vous êtes fan de Prince ?
Fan de Prince, ouais.
Il a marqué l'histoire de la musique, c'est pas besoin de le dire, par sa musique funk, pop, rock. Et des inédits de Prince viennent d'être dévoilés et on va les entendre grâce à vous, Angèle Châtelier.
Bonjour.
Je ne vous ai pas salué. Bonjour Angèle, c'est à vous.
Évidemment, c'est Purple Rain, l'un des plus grands tubes de Prince. Une chanson qu'il a révélée, mais deux ans avant, en 1982. Il sortait l'album 1999. Et bien, sachez qu'une réédition de cet album est sortie avec dedans, non pas des titres inédits de Prince, mais de nouvelles versions de certaines de ses chansons ou des enregistrements live jamais dévoilés. Parce que oui, certaines personnes ont parfois la manie de tout garder au cas où ça puisse servir. J'en fais un peu partie, je vous laisse imaginer le bazar chez moi. Oui. Eh bien, Prince était comme ça. Il gardait le moindre manuscrit, le moindre texte écrit, le moindre enregistrement de ses titres. Et ça a créé beaucoup de fantasmes. Dans sa maison de Pensley Park aux États-Unis, il avait un coffre-fort baptisé The Vault, une pièce secrète sous-scellée où il gardait toutes ses archives. Elle a été forcée quand il est décédé en avril 2016. Et de nombreuses choses ont été découvertes dedans. Parmi elles, des enregistrements inédits comme celui de son tube Can't Stop This Feeling I Got. Alors voici d'abord la version originale. Et voici la version inédite que l'on a retrouvée. Dans ce fameux coffre-fort, on a aussi trouvé l'enregistrement d'un de ses lives qu'il a fait dans la ville de Détroit au début des années 80. Et forcément, il a chanté « Little Red Corvette ».
Donc si je comprends bien, le Père Noël va être content, il y a un coffret qui vient de sortir avec la réédition d'un de ses albums et des versions inédites.
C'est ça, c'est un superbe objet avec 5 CD dedans, des DVD de live, mais il faut pouvoir y mettre le prix puisque ce coffret coûte 65€. Mais sachez que si vous êtes des fans absolus de Prince, l'actualité autour de lui ne s'arrête pas là. Si je vous dis The Revolution, ce nom de groupe ne vous dit peut-être rien, et pourtant ce sont ses alliés de toujours.
Mais oui, Prince and The Revolution,
exactement,
il y avait écrit ça d'abord sur les premiers disques.
Exactement, c'est ses principaux musiciens, et ils étaient en concert dimanche dernier à la Cigale pour rendre hommage à leur compagnon de route. Et Philippe, il y avait une invitée d'honneur à ce concert, c'est la chanteuse Jeanne Adède.
Pas un morceau de Prince.
Non, pas du tout.
Ça, c'est
un morceau de Jeanne Adède, exactement. Mais alors, elle est fan de Prince, elle s'en est jamais cachée. Dans une interview accordée à Chic Magazine, elle a dit que Prince était un peu comme un doudou pour elle.
Et elle dort avec.
Exactement. Ce qui lui plaît chez lui, c'est qu'il ne joue pas avec les codes masculins et qu'il a toujours travaillé avec des femmes fortes et puissantes. Son amour pour Prince est d'ailleurs ressenti dès le début de sa carrière en solo, puisque Jeanne Adède a repris le tube de Prince, Little Red Corvette, dans son premier EP.
Abdelmalik, réaction.
Fabuleux, fabuleux. Et c'est vrai qu'il a travaillé avec des femmes fortes, notamment Wendy et Lisa. Je me souviens, c'était deux de ses musiciennes et c'est fabuleux. Ce qu'elle faisait, Prince, c'était... Enfin, c'est énorme, Prince.
Vraiment, Wendy et Lisa, c'est vrai que c'était juste dingue. Il y avait le son sans être le son, tout en étant le son. Et il est laissé libre tout en les coachant. Ouais, c'était juste absolument incroyable. Magnifique. Ça aussi, on peut l'entendre. On va entendre du Prince
bien
en
sûr,
entier.
Bien sûr, on va écouter du Prince. Voici son titre. C'est un titre inédit aussi. Don't Let In Fool, extrait de ce coffret des rééditions de ses tubes. Funky Time sur Europe 1.
Dans Let Him Fall, c'était Prince sur Europe 1.
Europe 1.
Abdelmalik reste avec nous, on parlera dans un instant dans nos indispensables du jour cinéma avec Mathieu Charrier sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Abdelmalik est notre invité, on revient à son actualité dans un instant. Philippe, juste avant et comme promis, on va parler cinéma avec Mathieu Charrier.
Demain sort en salle Brooklyn Affairs, un film policier à l'ancienne avec détective privé, tous les clichés du genre qu'on adore. On est dans le New York crasseux des années 50, l'intrigue se plonge dans les magouilles immobilières de l'époque où il faut faire de la place pour construire les gratte-ciels. Casting de rêve pour ce polar noir avec Bruce Willis, Alec Baldwin en politicien véreux, Willem Dafoe, Edward Norton. Edward Norton qui est également derrière la caméra. Et Mathieu Charrier a eu l'immense privilège de rencontrer le réalisateur. Voici cet entretien.
Bonjour Edward Norton.
Bonjour.
Votre détective, c'est à la fois un archétype, un modèle du détective avec son chapeau, son long manteau. Et en même temps, il est très complexe, il est très torturé. Ça, c'est assez inhabituel pour un détective. Pourquoi vous avez choisi ce type de personnage ?
He's just very unique.
C'est juste quelqu'un d'unique, qui ne répond pas aux clichés habituels sur les détectives privés. D'ailleurs, il bosse pour un type, Bruce Willis, qui lui est un détective à l'ancienne. Et puis, sa maladie fait qu'il a du mal à s'orienter dans le monde d'aujourd'hui. Parfois c'est drôle, parfois c'est douloureux. Mais je crois que c'est la complexité de ce personnage qui m'intéresse.
Et justement, pourquoi lui mettre ce syndrome Gilles de la Tourette? Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans?
C'est une maladie chaotique. Il a des troubles de la parole et des symptômes physiques. Et en tant qu'acteur, réussir à équilibrer tout ça, faire en sorte que le public comprenne ce qui caractérise ce personnage, qu'il voit son humanité derrière sa maladie, c'est ça le défi.
Vous n'avez pas eu peur à un moment de tomber dans une sorte de caricature?
C'est le risque. Mais il ne faut pas manquer de respect, ni en faire une blague. Et c'est pour ça que je me suis servi de ce procédé de voix off. En tant que spectateur, vous entendez cette voix qui vous raconte l'histoire. Quasiment dès le début, ça permet d'avoir une vraie intimité avec lui, avec ce qu'il est au fond de lui. Je pense que c'est ce qui crée de l'émotion.
Alors vous avez aussi voulu raconter la transformation de New York dans les années 50. Je lisais que votre grand-père était lui-même promoteur immobilier. C'est ça qui vous a donné envie de raconter ça?
Quand on a décidé de raconter la grande histoire de New York, ça m'a parlé parce que mon grand-père était vraiment très impliqué dans la vie de la cité. D'une certaine façon, c'était un philosophe de la ville. Donc, c'est une part de ma vie. Et mon intérêt pour le New York des années 50 vient de là.
Vous pensez que ce qui se passait dans les années 50 sur ces villes qui se transformaient, qui poussaient les plus pauvres en dehors des villes, c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Oui, c'est toujours le cas, mais pas qu'à New York, à Paris aussi. Partout, il y a une histoire, un héritage culturel et une diversité de population. Le problème se pose. Il se posait à l'époque et il se pose encore aujourd'hui. Mais vous savez, c'est amusant. Nous vivons une époque intéressante. Chez vous, ça se voit à travers les gilets jaunes. Ces gens disent « Hey, on doit être entendu et pas exclu de ce riche héritage et de la prospérité d'aujourd'hui. » Ce n'est pas important que la ville soit romantique ou pas. Parce que eux, ils s'en sentent exclus. Ça créera forcément des frictions. Vous savez, c'est amusant, mais Miloš Forman, qui a vécu sous le nazisme et sous le communisme, il m'avait dit « Vous savez que vous ne gagnez jamais, mais il faut toujours les repousser. »
De quel réalisateur vous vous êtes inspiré? Quels sont les réalisateurs qui vous inspirent, français ou étrangers d'ailleurs?
J'ai beaucoup été inspiré par Spike Lee, qui écrit, qui tourne, qui joue dans ses propres films. J'ai toujours aimé les acteurs qui font plus que jouer, comme Clint Eastwood, Kevin Costner. En France, je suis un fan inconditionnel de Jacques Audiard. Je pense que c'est l'un des plus grands réalisateurs encore en activité au monde.
Il y a aussi quelque chose de très important dans votre film, c'est la bande-son, la musique. Il y a beaucoup de jazz.
Oui, en fait, la bande originale du film, c'est un mélange de tout ce que j'aime, comme Radiohead, par exemple. J'aime aussi beaucoup le jazz. J'ai demandé à Tom York d'écrire un morceau. La bande-son de ce film est extraordinaire.
Merci beaucoup, Edward Norton.
Merci.
Interrogé par Mathieu Charrier, qu'on remercie, c'était donc Edward Norton, réalisateur du film Brooklyn Affairs, qui sort en salle demain dans toute la France. Et c'est un film européen et on n'est pas peu fiers. Un mot de théâtre, Abdelmalik. Le New York Times, prestigieux quotidien américain, vous a consacré une pleine page. Explication, vous avez été le premier noir en 157 ans à mettre en scène une pièce au Théâtre du Châtelet. En l'occurrence, c'était Les Justes d'Albert Camus, avec des comédiens choisis par vous, quasiment tous issus de la diversité, comme on dit. Pourquoi ce choix ?
Ben, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce que dit le New York Times, puisque finalement le New York Times, c'est aussi dans la dynamique de la culture américaine, qui est une culture, très communautarisée, racialisée, etc., en tout cas dans sa réflexion et son approche du monde. Moi, en fait, pourquoi j'ai mis un casting avec des acteurs, entre guillemets, issus de la diversité? Tout simplement parce qu'on parle des anarchistes russes en 1905, sorte de répétition à ce qui allait se passer en 17 et ce qui allait amener, pour faire court, le communisme. Et quand Camus écrit en 49, il n'y a pas encore eu les indépendances. Et une fois qu'il y a eu les indépendances, tous les différents pays, que ce soit le Congo, l'Algérie, la Chine, enfin tous ces pays après le Vietnam, enfin, allaient prendre le communisme. Et donc pour moi, en puissance, le fait de mettre des Russes qui sont des Français d'origine congolaise, des Français d'origine algérienne, des Français d'origine chinoise, pour moi, ça voulait juste dire souligner l'universel des grands mouvements politiques, de dire que ça touche et ça impacte tout le monde. Et qu'en vérité, à Moscou, en 1905, le monde était déjà là. Donc j'ai voulu le symboliser dans ma mise en scène, tout simplement.
On va la revoir, cette pièce. Elle a été créée au Théâtre du Châtelet.
Elle a été créée au Théâtre du Châtelet et elle va reprendre la saison prochaine au Châtelet et puis sur la route.
Méchante blessure, c'est le roman d'Abdelmalik. On n'en a pas encore parlé. Justement, il nous reste encore des petites et belles minutes avec lui.
Oui, ça sera dans un instant sur Europe 1. Dernière partie de Culture Média avec notre invité Abdelmalik sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et on y est, dernière partie de Culture Média, Philippe, avec notre invité Abdelmalik. Son dernier album, Le Jeune Noir à l'épée, est également un spectacle, bientôt en tournée dans toute la France. On parle aussi de son premier roman, qui est toujours en librairie, qui s'appelle Méchante blessure.
C'est publié chez Plon, c'est assez transparent, je me suis dit, tiens, c'est son histoire. Le héros s'appelle Camille, c'est un prénom qui s'est choisi, autrefois il s'appelait Achille, comme vous. Autrefois vous appelez Régis, comme vous. Il a grandi à Strasbourg, de parents congolais, comme vous. Il s'est converti à l'islam, comme vous, il a changé de prénom et de nom de famille, et comme vous, il a fait du rap et du théâtre. C'est votre histoire déguisée ?
Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de Flaubert et dire Madame Bovary, c'est moi. C'est toujours...
Si on peut, on peut.
En fait, j'ai envie de dire, lorsque on se raconte toujours, soit d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que ce qui m'a inspiré aussi cet ouvrage, c'était, j'avais lu à l'époque 3 jours chez ma mère de François Hérogance, et je trouvais ça hyper intéressant. Il avait un double qui s'appelait François Weyergraff.
Ouais, je me souviens.
Et il racontait cette histoire-là. Et je me suis dit, ça serait marrant d'avoir une sorte de double littéraire, d'avatar, et qui serait un peu moi, mais pas vraiment.
Je ne vais pas tout spoiler, mais à un moment donné, on ne sait pas si vous êtes mort ou vivant.
Le personnage.
Ouais, bien sûr. Je suis pas complètement idiot non plus. Hein, je me suis rendu compte. Vous êtes parfois obsédé par les couleurs de peau des gens. Vous la citez à chaque personnage qui apparaît au début du roman. Ça m'a vraiment frappé. Alors, on est page 34. En sortant, la jeune femme de chambre noire qui passait l'aspirateur dans le couloir. Page 36. Des familles noires entières en habit du dimanche sortaient tout juste de la messe. Page 38. Il était accompagné là ce matin-là d'une femme blanche, extravagante mais splendide, ainsi que d'une jeune métisse. Et page 39. Rufus Alexander était un noir à la peau très sombre. Pourquoi préciser la couleur de peau de chaque personnage qui survient?
Alors, excusez-moi, il faut lire tout le livre pour comprendre pourquoi, parce que c'est à dessein, en fait.
Je sais, dites-le.
C'est que j'expliquais, on est dans la culture américaine,
ouais.
et là, il est à New York.
Ouais.
Et il se rend compte finalement que tout est vu par le prisme de la couleur, en fait. Il y a même une hiérarchisation liée à la
Exactement.
Couleur. Et si le monde devient américain, donc le monde se racialise d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, lui, il parle de la France et où il explique justement que les principes dont notre pays font la promotion d'une certaine manière sont des principes qui font fi de la couleur de peau. Qui font fi finalement être français, c'est ni une couleur de peau, ni une religion, ni un sexe, mais le fait d'adhérer à des valeurs, des principes, etc. Et donc, d'une certaine manière, son histoire met en confrontation deux cultures, la culture anglo-saxonne et la culture du reste du monde.
Et vous aimeriez que ce soit comme ça, que notre monde devienne à l'américaine? Il y a beaucoup de Français qui souhaiteraient ici qu'on puisse faire des catégories, par exemple, à la télévision.
Non, moi en fait... Je fonctionne d'une certaine manière, ce qui est éminemment français, je pense, c'est l'idée de justice. C'est dire qu'à un moment donné, on doit être juste. Et être juste, c'est pas catégorisé par rapport à une couleur de peau, etc. Mais encore une fois, ceux qui ne veulent jamais parler de couleur de peau, généralement, c'est ceux qui n'ont pas de problème lié à leur couleur de peau. Donc il faudrait réfléchir un peu différemment. Et ce récit parle de tout ça.
Alors je voudrais annoncer quelque chose, un événement, car vous ferez une lecture de votre roman ce mardi à 18h, de 18h à 20h, à la librairie de l'association Asdin Alaïa à Paris, 18 rue de la Verrerie. Et vous serez également au festival littéraire Le Goût des Autres au Havre, du 16 au 19 janvier. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez faire de la cuisine? Vous allez faire un concert? Vous allez faire les deux?
Les deux, mais on va lire surtout. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est comment utiliser l'art, la littérature pour travailler à faire peuple, travailler à faire France.
Voilà. J'ai pas dit les villes de la tournée, vous serez au Théâtre de la Ville à Paris, vous serez aussi à Tremblay, à Antibes, au Havre, au Théâtre de la Ville, à Douai, à Oyonnax, à Moulins, à Arcachon, à Fougères, à Brive, à Denain, à Guéret, à Cholet, à Saint-Nazaire. Merci beaucoup Abdelmali, je vais arriver à le dire, je rappelle. On entend quelle note?
On entend La Vida Negra.
Exactement, avec le fameux moteur Renault.
Exactement.
La tournée et Wallen. Le jeune noir à l'épée, c'est en ce moment. Et le roman, il s'appelle Méchante blessure. C'était chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
Angèle
reçu.
Châtelier. Merci Céline Dacosta. Demain, dans Culture Média, on va recevoir Jean-Hugues Anglade et Iris Boucher pour une nouvelle série sur M6. Et le comédien, chanteur, humoriste inclassable, Cartman. À demain, bonne journée. Portez-vous bien sur Europe 1.
C'était Philippe Vandel sur Europe 1. Et dans un instant, vous allez retrouver Anne Romanoff qui débarque avec toute sa bande et leurs invités. Aujourd'hui, Nicoletta et Alexandre Prévert sur Europe 1.